Pourquoi on se fait baptiser? Moi, quand je me regarde là aujourd'hui, je me dis, mais waouh, il y a eu du chemin qui s'est passé. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais un athée militant. Pour être précis, j'étais plutôt un agnostique anticlérical. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens qui sont athées sont pas vraiment athées, mais agnostiques. Et c'était mon cas. C'est que je me considérais comme athée, mais je savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et lorsque je me promenais dans la nature, lorsque je regarde un coucher de soleil, lorsque j'observe un nouveau-né, ou bien une blessure qui se guérit toute seule, je me dis, waouh! Et je me disais, à cette époque, il y a quand même quelque chose. Il doit y avoir quelqu'un au-dessus qui a permis tout ça parce que c'est juste extraordinaire. Mais, je suis né dans une famille athée et j'avais un grand-père communiste, militant. Et donc, j'ai eu quelques cours sur l'anticléricalisme. Et donc, j'avais tout un rayon d'arguments ou de flèches, hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais que je sortais lorsque je discutais avec des amis. Et j'aimais principalement provoquer. Et il y a une phrase, lorsque j'avais des amis catholiques qui allaient à la messe chaque dimanche et tout, et la phrase qu'ils redoutaient et que j'aimais dire, c'était « Ok, c'est bien tout ça, mais ça change quoi concrètement à ta vie dans le quotidien ?» Et sans le savoir, c'était la question fondamentale. Une question que Jésus a posée à ses apôtres. Une question que Paul a posée aux églises et aux chrétiens des églises. Une question que je pose régulièrement à moi, mais aussi aux membres de cette église. Ça change quoi au fait? Le fait que tu aies la foi. Tu te dis croyant, pratiquant, ça change quoi? Et on va essayer de répondre à cette question et c'est les baptisés eux-mêmes qui vont y répondre ce matin. Parce qu'en fait, le meilleur témoignage, ça reste la vie transformée. Alors bien entendu, ça n'empêche pas le témoignage oral, mais une vie qui parle. Hein, quand on observe certaines personnes, on se dit « Waouh, il y a quelque chose dans sa vie que je n'ai pas ». Et c'est ce qu'on va peut-être observer, en tout cas moi je le sais parce que j'ai écouté leur témoignage, mais c'est ce que vous avez probablement observé depuis quelque temps dans leur vie. Il y a des choses qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé, ça a bouleversé leur quotidien. Et je vous invite à prendre avec moi, on va juste lire quelques versets, et c'est une métaphore que l'apôtre Paul va utiliser. Alors vous pourrez la lire, elle va s'afficher juste derrière moi, elle devrait... Voilà, ça va arriver. Non, c'est pas au bon endroit. Alors, je vais vous lire le texte, il va s'afficher dans quelques secondes. Voilà. Ça fonctionne toujours pas. Je pense que c'est un petit souci de pile, si jamais... Voilà, si tu peux passer la slide juste après. Voilà, merci. Alors, 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église à Corinthe, en Grèce. Et voilà ce qu'il leur dit. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et on arrête la lecture, une lecture courte, avec beaucoup d'éléments et des métaphores. Alors ça va être une truffade de métaphores ce matin, vous allez voir. C'est assez impressionnant parce qu'on a un concentré ici de théologie, de doctrine, qui nous vient de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. En fait, quand Paul dit ça, il fait face à une polémique dans l'Église. Il y a des gens qui venaient avec des lettres de recommandation, mais des gens qu'on ne connaissait pas, et souvent des faux apôtres. Mais comme ils avaient une lettre, on les écoutait. Et Paul, lui, il va se défendre de ça en disant « Mais moi, j'ai pas besoin de lettres de recommandation. Je suis un véritable apôtre de Christ. La preuve, c'est la vie transformée des Corinthiens. » Votre vie transformée, c'est la preuve de mon apostolat. C'est la preuve visible que tout le monde peut observer. Vous êtes une lettre écrite, lue, hein, vous l'avez vu avec moi. Vous êtes une lettre qui est lue de tous les hommes. Et donc ça veut dire que la vie des Corinthiens, elle était observable, et c'est ça sa carte de crédit quelque part, que l'apôtre Paul brandit, c'est sa lettre de recommandation. Voilà, j'ai pas besoin d'une lettre. Regardez vos vies, elles sont transformées, ça, c'est ma lettre à moi. Et c'était la preuve que Dieu était en train de travailler. Et c'est ce qu'il va développer juste après. Vous avez vu au verset 2, voilà, au verset 2, il dit, « Vous êtes notre lettre, écrite, connue et lue de tous les hommes. » Au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Voilà une métaphore qui est forte. Et donc, ici, il fait référence à des écrits. Alors, on va voir ce que c'est que cette lettre. En tout cas, il dit que, ici, Jésus lui-même est l'auteur de la lettre. Hein, c'est une lettre de Christ, c'est lui qui l'écrit. Donc, c'est pas l'apôtre Paul directement, même s'il a eu un rôle, ça reste Christ qui l'écrit, et on va regarder de quelle manière. Donc, l'auteur de la transformation, c'est bien le Christ. Mais au verset 3, il précise une chose. Alors, c'est pas ici, mais au verset 3, on l'a lu juste avant, il dit que la lettre n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Les tables de pierre et le cœur de chair, c'est deux éléments que l'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est pas pris au hasard. Il fait référence à un texte bien connu qui annonçait la nouvelle alliance. On va passer d'un régime avec des commandements, donc c'était la loi, à un régime de grâce où c'est l'Esprit lui-même qui va graver la loi, mais dans le cœur. Et donc il y aura plus besoin d'une table, elle va être gravée dans le cœur. Ça va devoir être nourri, hein, par les paroles de Christ, par l'Évangile, mais on n'est plus sous le même régime, et c'est exactement ce qu'il fait ici. Et il fait référence à un texte qui annonce cette nouvelle alliance, et le voici. Et regardez bien, on est 7 ou 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, imaginez l'état de la médecine à l'époque. Regardez ce qu'il dit ici, c'est juste incroyable. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il est en train de parler d'une transplantation cardiaque ici. Hein, c'est assez dingue parce qu'il n'avait aucune connaissance de la médecine. En tout cas, pas du tout comme la nôtre. Alors, imaginez une greffe de cœur. C'est impensable, mais c'est une métaphore. Mais cette métaphore, elle nous parle à nous, parce que on sait que ça existe aujourd'hui et qu'on peut transplanter un cœur et qu'on peut vivre avec le cœur d'un autre. Vous allez voir, je vais donner quelques exemples ici. En 1967, il y a eu la première greffe aux États-Unis. Et donc on a réussi à greffer un cœur et la personne a vécu 18 jours. Donc c'était, on va dire que c'était pas une greffe réussie. Ça a été quand même bien, mais le corps a rejeté le greffon. Et donc ils ont fait d'autres essais et il y en a eu un le 2 janvier 1968 et là la personne a vécu 19 mois. Et on s'est dit, waouh, on avançait. Et le record de la toute première greffe qui a fonctionné 19 ans, eh bien, ce fut un homme français. Il s'appelait Emmanuel Vitria. Et donc, lui, il a vécu 19 ans avec un cœur. Alors, il était déjà âgé quand il a reçu sa greffe, mais il a vécu 19 années. Aujourd'hui, c'est une technique qui est complètement maîtrisée. On peut transplanter des cœurs et la personne peut vivre jusqu'à plus de 90 ans. Donc ça veut dire qu'on a une deuxième vie avec un nouveau cœur. Dans notre texte, il ne s'agit pas d'une transplantation physique, on est d'accord, mais d'une transplantation spirituelle. Et comme toute bonne métaphore, elle dit quelque chose de vrai sur la condition de l'homme. Et la première de ces conditions, c'est qu'on a tous un problème cardiaque. On a tous un problème de cœur. Les pasteurs, les curés, les prêtres, tout le monde a un problème de cœur. Notre cœur, et c'est ce que dit Ézéchiel, c'est un cœur naturellement de pierre. Il est dur, il est fermé, il est froid, il est insensible aux choses de Dieu. En fait, il y a peu de gens qui naturellement sont tournés vers Dieu. On est naturellement rebelle. On est naturellement en train de refouler les commandements de Dieu. Et ça, c'est tous les humains. Je ne sais pas si vous avez des enfants ici. Qui leur a appris à mentir à vos enfants? Qui leur a appris à dire non? Hein, et vous savez, vous qui en avez, que ça commence très tôt. Personne n'a jamais appris à faire le mal. On le fait naturellement. Qui a appris l'égoïsme aux enfants? Personne. Alors je parle pas des adultes, parce que ça c'est entériné, mais pour les enfants, ça se voit très très tôt. Donc le cœur, dès le départ, il est dur, il est fermé aux choses de Dieu. Et c'est ce que dit ici Paul en pensant à Ézéchiel. En fait, les gens qui sont comme cela, et comme je l'étais, eh bien, connaissent probablement des règles morales. On en connaît tous, des principes religieux. On peut même assister régulièrement à des offices religieux, venir au culte, à la messe, mais avec des pensées, des motivations qui sont absolument pas changées. Et donc, on reste avec ce cœur. Donc, on a des pratiques extérieures, mais le cœur à l'intérieur n'est pas changé. Les motivations profondes, les intentions, les affections ne sont pas changées. Et ces paroles-là, elles étaient parfaites dans leur contenu. Elles disaient exactement ce que Dieu attendait, mais elles n'avaient aucun pouvoir de transformation. Les paroles de la loi, c'est ce qui se faisait avec Moïse. On leur a donné des commandements. Et malheureusement, les Israélites, qui pourtant étaient attachés à ces commandements, n'arrivaient pas à les respecter parfaitement. Et personne d'entre nous en arriverait à les respecter parfaitement. Il suffit de regarder de près, un petit peu, de gratter sous la surface. Par exemple, la plupart du temps, ce que j'entends, « Mais tu sais, moi j'ai tué personne. » Ok, mais la Bible, elle va beaucoup plus loin que simplement faire un meurtre. Elle dit que si tu t'es mis en colère contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Déjà, vous voyez, ça va loin. Si tu as regardé une femme ou un homme pour le convoiter, tu as déjà commis adultère. Ça va loin, les pensées. Et là, on peut tous dire, ben, je suis coupable, je suis coupable. Et c'est pas parce qu'on va rajouter des lois que ça va changer notre culpabilité. Et vous savez que nous, les Français, enfin, quand je dis nous, ici on est en Suisse, mais je parle en tant que Français parce que j'habite en France, on est les champions toute catégorie des lois. Et déjà au XVIe siècle, regardez ce qu'il se disait, c'est Montaigne en 1588 qui disait ça. « Nous avons en France plus de lois que dans tout le reste du monde et assez de lois pour gouverner ensemble tous les pays du monde. » Alors, à votre avis, est-ce que ça a changé en 2026? Eh bien, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, en 2026, ça j'ai demandé à Claude, mon ami Claude, c'est une intelligence artificielle, hein. Et donc, il annonce 10 500 lois. 10 500 lois aujourd'hui. Plus de 127 000 décrets d'application de cette loi. Et tout ça dispatché dans 64 codes juridiques. Déjà, rien que si je devais vous demander d'énumérer les codes, juste le titre, vous voyez ici, vous en avez quelques-uns, le code civil, le code pénal, le code de commerce, le code de la sécurité sociale, il y en a 64. Et à l'intérieur de chaque code, vous avez des lois. Et après, il y a des décrets d'application. Et la France en est champion toute catégorie pour les créer, ces lois. Mais vous qui allez régulièrement en France ou qui vivez en France, est-ce que vous trouvez que les Français sont meilleurs que les autres ? Moi, je peux en parler parce que je suis français. Je trouve qu'on est les champions du monde pour râler, pour se plaindre. On n'est jamais content. Mais on est rassuré parce qu'on a beaucoup de lois. Ça rassure, la loi. Ça nous rassure. Alors, chaque année, ça c'est, le Parlement européen rajoute 50 lois nouvelles chaque année. Et là, on se dit, waouh, on va s'arrêter quand? Est-ce que ça change le cœur des Français? Absolument pas. Et on pourrait rajouter des lois et rajouter d'autres lois, ça ne changerait rien. Et c'est pour ça que Dieu envoie une solution. C'est pas le fait de rajouter des lois qui va changer le cœur, mais c'est de changer le cœur en lui-même. Et c'est ce qu'il vient faire. Il vient par son esprit, changer l'intérieur de la personne. Et ça va se voir à un moment donné. Et c'est donc mon deuxième point, on a tous besoin d'une transplantation parce qu'on a tous un problème de cœur. Et c'est ce que Paul dit, hein, vous êtes des lettres de Christ écrites non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, donc ce que Dieu avait fait sur la loi, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et ici, je relève trois réalités de cette image. La première, c'est que l'auteur de la lettre, c'est Christ. C'est Christ. C'est pas le pasteur. C'est pas l'église ou la famille chrétienne qui transforme le cœur d'un disciple. Ça y contribue d'une certaine manière. Mais celui qui va transformer littéralement le cœur, qui va changer le cœur, c'est Dieu. Il change l'ordinateur de bord. Il change le logiciel interne. Ce qui va pousser tous les autres logiciels. Vous voyez? C'est lui qui fait ce travail-là. C'est ici, je vous ai mis l'image de drap. Cette semaine, j'étendais le linge avec mon fils, et puis, quand il y a du vent, on voit les draps qui bougent. On sait que c'est le vent qui fait ça, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Qui a déjà vu le vent? Levez la main. Je veux savoir s'il y en a qui ont besoin d'aller en psychiatrie ou pas. Non. C'est une blague, bien sûr. S'il y avait de la poussière dans l'air, vous pourriez voir le vent parce que, ou des nuages, on pourrait voir en tout cas des dessins qu'il va créer. Vous savez, quand il y a un tourbillon au sol, on voit les feuilles qui bougent comme ça, qui s'arrondissent. On se dit, wow, c'est magique, Harry Potter. Non, non, c'est simplement un tourbillon qui est créé par les éléments autour. C'est le vent qui est là. Eh bien, l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas, et pourtant, il œuvre à l'intérieur du cœur. Donc, c'est pas nous qui produisons ça, on est incapables, mais c'est l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance. C'est lui qui vient créer ces nouvelles motivations, et nous, on n'y est pour rien. Et donc, il va nous rendre sensibles. Ce cœur, qui était un cœur de pierre, va devenir un cœur de chair. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre cœur tout seul? Moi, je me faisais des petits paris comme ça. Quand je voyais l'état de mon cœur, je me disais, allez, demain, tu n'es plus égoïste et tu ne penses qu'aux autres. Vous savez quoi? Ça marchait. Au moins pendant 8 heures, pendant que je dormais. C'est le seul moment où ça fonctionnait. Parce qu'on ne peut pas se changer soi-même. On a besoin de quelqu'un d'extérieur, d'une intervention extérieure. La deuxième chose que je relève du texte, c'est que l'encre, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est pas une force abstraite, ni une énergie cosmique ou une simple influence morale. C'est une personne vivante qui agit à l'intérieur de nous. Et la Bible le prouve parce qu'elle dit qu'on peut lui mentir. On peut l'attrister. On peut même l'éteindre. Mais on ment pas à une force. On n'attriste pas une énergie. C'est toujours une personne, voyez? Donc, elle attribue au Saint-Esprit vraiment le rôle d'une personne. Et quand on se tourne vers Jésus avec foi, eh bien, cet Esprit qui est vivant, il vient habiter en nous. Et il va commencer un travail de fond, un grand déménagement, mais c'est de manière invisible. Mais c'est perceptible. Invisible ne veut pas dire perceptible. Quand le vent tourne, on ne le voit pas, le vent. Pourtant, on perçoit qu'il est là parce qu'on voit les feuilles bouger. Eh bien là, on voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une personne parce qu'on voit ses motivations changer, ses actes changer, ses pensées changer. C'est la transformation intérieure qui va se voir à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est un travail qui est invisible. Et donc, les gens comme moi, qui avaient un cœur dur, eh bien, ils vont devenir sensibles. Je prends juste une illustration ici, parce que moi, j'étais un dur à cuire. Je regardais des films d'horreur, je regardais des toutes sortes de films. Jamais vous m'auriez vu verser une larme, même quand il y avait Pearl Harbor, vous voyez. Des trucs qui sont vraiment, qui viennent nous chercher dans nos émotions. Jamais je versais une larme. Quand je me suis converti, les choses ont changé. Aujourd'hui, je regarde la petite maison dans la prairie, je me mets à pleurer. Et là, on se dit, waouh, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Eh bien oui, le cœur de Pierre est devenu sensible. Et donc, je me mets à pleurer pour des choses comme ça, pour des histoires vraies. Ça me touche profondément, alors que j'ai toujours été un dur à cuire. Mais voyez, c'est ce que Dieu produit dans le cœur. Le troisième élément que je relève ici, c'est que le support, c'est le cœur humain. Et ici, j'ai pris l'exemple de cet homme, Cédric Louis. Et lui, c'était un sportif, cet homme-là. Il faisait beaucoup de VTT, du snowboard, de la motocross, du BMX. Et à partir de 16 ans, il a découvert qu'il était atteint d'une maladie génétique. Et donc, il a essayé, tant bien que mal, de vivre avec son cœur qui s'affaiblissait de plus en plus, jusqu'au jour où il est tombé dans le coma. Il a fait un AVC. Et donc, on a été obligé de lui transplanter un cœur. Et donc, vous voyez, sur ma droite, donc oui, c'est ici, sur votre droite du coup, eh bien, vous voyez cet homme à l'hôpital qui était en demande de greffe. Regardez bien, il faisait à peine 40 kilos. Et son cœur était vraiment au bout du bout. Et là, l'image que vous voyez juste à côté, avec ce casque de VTT, c'est lui quelques années plus tard. Et donc lui, aujourd'hui, il dirige une association, et donc il encourage, et il va tout faire pour que des gens qui sont atteints de cette maladie, eh bien, puissent être greffés du cœur. Lui qui, au départ, ne pouvait même pas monter un escalier, trois marches, il s'épuisait, eh bien, sa vie va changer au point qu'il va pouvoir faire du vélo et faire des courses avec un cœur nouveau. Sa vie va être transformée parce que son cœur a été changé. Et vous voyez ici la métaphore, là où je veux en venir. C'est ce que Dieu fait. C'est pas en ajoutant des règles, des nouvelles règles de vie, mais c'est parce que le cœur est changé que la vie est transformée. Et c'est ce que Dieu fait. Et il dit que cette vie-là, c'est une lettre. Hein ? On devient une lettre qui est vue, qui est connue et lue de tous les hommes. Et donc c'est ce qui se passe, et c'est là où je veux en venir. Vous êtes une lettre connue et lue de tous les hommes. Et on a tous également une vie qui parle. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez croyant ou non, votre vie, hein, tout ce que vous faites, vos réactions, vos sourires, ou la tête que vous pouvez faire, les pleurs, toutes les émotions qui vont vous traverser, mais vos choix de vie également manifestent ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, tout le monde a une vie qui parle. Les croyants, on leur dit, attention, ta vie maintenant doit avoir une autre couleur quelque part. Et c'est ce que nous on fait en tant que pasteurs, les anciens, les bergers, on observe nos brebis. Et si les brebis se manifestent comme des loups, on est en droit de se demander si c'est pas simplement un déguisement. Voyez, quelque chose qu'on a mis par-dessus d'extérieur pour camoufler un petit peu les dents longues. Hein. On se met un dentier, on va mettre une belle couverture blanche moutonneuse, et puis on se fait passer pour un temps pour un mouton jusqu'au jour où il y a un élément qui va ressortir et on va se dire waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une brebis a été mordue sévèrement, elle saigne. Est-ce que ce serait vraiment une brebis ou ce serait plutôt un loup? Et donc vous voyez que notre vie extérieure, elle manifeste qui on est à l'intérieur et si Dieu a transformé ou pas.